Un contre-pied à de l'actualité, pas vraiment, parce qu'il y a des sujets qui font hélas l'actualité tout le temps, en particulier quand il est question d'enfants. L'enfant dont il faut toujours rappeler que le mot vient de infants, qui signifie celui ou celle qui ne parle pas. Et c'est peut-être simplement pour ça qu'on devrait en parler, nous, tout le temps. Quand la justice pour enfants, par exemple, en vient à avoir honte de sa propre impuissance. C'est le cas du tribunal de Bobigny, l'un des plus importants de France, où 15 juges ont rendu public, il y a 2 semaines, un appel au secours. « Nous sommes devenus les juges de mesures fictives », écrivent-ils, forcés de constater que leur institution n'est pas en mesure d'assurer la protection des familles, faute de moyens. Le problème, intuition qu'avait déjà le 19e siècle, c'est que le fonctionnement d'une société repose sur le traitement de ses enfants. Quand il imagine le 19e siècle des personnages comme Cosette, Oliver Twist ou Rémi sans famille, qui sont tous confrontés, c'est intéressant, sinon à la loi, du moins à l'injustice, c'est bien pour rappeler que le monde qu'ils décrivent n'a pas plus grand vice que celui qui consiste à abandonner ses mômes. Celles et ceux qui non seulement incarnent le monde de demain, mais pour lesquels on a, je le disais, la responsabilité collective de parler. Et les miracles que proposent Victor Hugo, Dickens ou Hector Malot, en sauvant contre toute attente leurs enfants miséreux, ces miracles ne cessent de nous rappeler qu'il faut bien qu'une société soit malade pour ne pas faire de la protection de l'enfance le premier des combats.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel regard mon invitée d'aujourd'hui porte-t-elle justement sur ce combat? Elle est réalisatrice, mais c'est en tant que comédienne que je la reçois ce matin pour son rôle de photojournaliste dans Les Filles du Soleil d'Eva Husson avec Golshifteh Farahani en salle après-demain. L'histoire d'un groupe de combattantes yézidis en lutte contre Daesh dans le Kurdistan irakien. Un film à la gloire du féminin, un film aussi qui choisit d'interroger un drame collectif par le prisme d'individus. Bonjour Emmanuel Berco.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, parce que je sais que c'est un sujet qui ne vous a pas laissé indifférente, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce SOS des juges du tribunal pour enfants de Bobigny, il y a 15 jours?
Ben, beaucoup de chagrin, je dirais, parce que c'est très difficile de faire un ordre de priorité dans les causes qui valent le coup d'être défendues. Mais pour moi, la protection, tout ce qui concerne les enfants, que ce soit en France ou dans le monde entier, ça devrait être une priorité absolue. Parce que bon, je crois, mais je pense qu'on est beaucoup à le penser, que l'éducation est à la base de tout et que c'est là-dessus qu'il faudrait vraiment mettre tous les moyens, toutes les intelligences et toutes les compétences.
C'était
et
le point de départ de La Tête Haute, le film que vous avez réalisé il y a 3 ans.
Oui, bien sûr, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet d'actualité, c'est que c'est vraiment quelque chose qui continue de m'occuper beaucoup l'esprit. Et voilà, je trouve fou que dans un des départements où on sait qu'il y a le plus de difficultés, la Seine-Saint-Denis, puisque moi j'ai vu ses parents et ses enfants dans les bureaux des juges, et je sais combien ils attendent cette aide de l'État, parce que l'éducation est un droit fondamental des enfants, et que un enfant qui ne peut pas profiter d'éducation dans son milieu familial, l'État doit prendre le relais. Et c'est vrai qu'imaginer ces juges donc prendre une mesure, c'est-à-dire dire bah voilà, votre enfant il va être suivi par un éducateur ou il va devoir faire telle et telle chose pour qu'on l'aide, le juge est amené à dire je prends cette mesure, mais malheureusement personne n'est disponible pour l'appliquer.
Et c'est ce que disent mot pour mot les mots justement de ces 15 juges. Qu'est-ce que le film La Tête Haute vous a appris, vous Emmanuel Berco, des conditions de fonctionnement de la justice?
Alors, elle m'a appris ce que j'ai observé sur le terrain, puisque j'ai fait un long stage et il se trouve que je suis tombée sur des personnes assez exceptionnelles. Donc, c'est toujours pareil, La Tête Haute, elle rend hommage au travail fantastique des gens qui œuvrent autour de la protection de l'enfance, mais aussi dans le pénal pour les jeunes délinquants. Donc, j'ai eu affaire à des personnes exceptionnelles. Donc, j'ai fait un portrait assez exceptionnel de cette justice. Il doit y avoir des gens moins exceptionnels, certainement. Ce qui est, une chose est sûre, c'est que, elle manque énormément de moyens. Ça va jusqu'au fait que le juge est obligé d'acheter lui-même ses post-it. Enfin, c'est anecdotique, mais c'est quand même, c'est pour vous dire à quel point cette justice-là, qui devrait être la première, le premier bastion, quoi, manque de moyens.
Et vous en êtes venu à douter du bon fonctionnement de la justice?
Non, je suis pas venu à douter du bon fonctionnement de la justice parce que je pense que on a en France une justice des mineurs qui est quand même exceptionnelle par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde. Il faudrait simplement qu'on lui donne les moyens de faire son travail comme il le faut.
Alors ces combats, le combat d'ailleurs, Emmanuel Berco, c'est absolument central dans votre cinéma, dans votre vie aussi je suppose. Quand est-ce que vous avez pris conscience des inégalités, vous, en particulier sociales, dans le monde qui vous entourait ?
Je crois que je suis un peu née avec ce sens-là. Enfant déjà, l'injustice sociale. Moi, je suis née dans une classe confortable, mais j'ai toujours eu conscience vraiment très petite des injustices sociales. Et c'est toujours quelque chose qui m'a révoltée et même beaucoup tourmentée. Je me souviens de enfant de crise familiale quand on parlait politique, parce que je parle pas de mes parents, mais enfin dans la famille plus large, les gens étaient plutôt de droite, et moi c'est tout juste si à 6 ans on me disait pas mais tu es socialiste ma pauvre fille. Donc j'ai vécu des choses comme ça, je sais pas, je j'étais pas non plus dans une école où il y avait une grande mixité sociale, mais je ne sais pas comment j'ai pris conscience de cette injustice sociale dans laquelle
comment le cinéma répond à ça pour vous, chez vous, Emmanuel Berco, le petit au moins.
Le cinéma, il peut témoigner et dénoncer et aider des prises de conscience. Il peut pas, à mon avis, changer le monde, mais des gens comme Ken Loach ou même comme Eva Husson avec le film qu'elle fait aujourd'hui sur les combattantes kurdes, elles sont là pour aussi éveiller les consciences et témoigner, et dénoncer et pousser des cris, quoi. Et les cris, ils peuvent être entendus par plein de gens quand ils sont bien poussés.
C'est un film, Les Filles du Soleil, effectivement, qui parle de batailles, celles de femmes capturées et violées par des djihadistes qui ont réussi à s'échapper et sont devenues soldats, des soldats contre les islamistes. Qui sont-elles, précisément, ces combattantes ? Comment vous les avez vues, vous ?
Alors, moi, je n'ai pas vu les vraies combattantes, parce que moi, je ne suis que comédienne dans
ce
film.
À la lecture du scénario. Et des recherches que vous avez dû faire aussi pour...
Oui, enfin moi je fais pas beaucoup de recherches. Moi je fais confiance à la personne qui m'a choisie et je prends toute la matière qu'elle veut bien me donner, mais je suis pas quelqu'un qui fait des recherches. D'abord j'ai découvert l'existence de ces combattantes yézidis en lisant le scénario d'Eva Husson, parce que je suis vraiment pas une grande spécialiste de la politique internationale. Donc j'ai découvert leur drame, quoi, leur oppression et surtout le fait qu'elles avaient pris les armes pour quitter ce statut de victime et se battre contre ceux qui les opprimaient. Donc je les ai vues comme toutes les femmes dans le monde qui se battent pour soit sauver leur peau, soit sauver leur honneur, soit sauver leur vie, soit sauver leur dignité, soit sauver leur corps, soit sauver leurs âmes, tout ce que vous voulez. Je les ai vues comme des femmes qui se battent.
D'ailleurs, je me souviens quand Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, a annoncé la sélection officielle du film, il l'a présenté comme un film de femmes. Cette expression, à vous, qui êtes à la fois comédienne et réalisatrice...
Je la déteste.
Ah, c'est vrai ?
Oui.
Ça vous évoque quoi ?
Ça m'évoque rien du tout, c'est bien pour ça que j'aime pas cette expression. Non, pour moi, ça veut rien dire, un film de femme, je sais pas ce que c'est. Là, c'est un film fait par une femme, ça c'est indéniable. C'est un film où il y a beaucoup d'actrices, donc il y a beaucoup de femmes dans le film, mais en quoi c'est un film de femme, ça je sais pas. En tout cas, c'est un film qui rend hommage aux femmes qui se battent, et en premier lieu à ces femmes yézidis et kurdes, mais aussi à toutes les femmes qui luttent au quotidien. C'est ça le film.
C'est intéressant parce que je sais que ça a fait l'objet justement de discussions entre vous et Eva Husson, notamment la réalisatrice, parce que vous voyez pas forcément les choses de la même façon. Et c'est passionnant, comment est-ce qu'on fait dans un film comme celui-ci, qui reste quand même à la gloire du féminin, vous le dites, pour concilier deux points de vue différents, celui de la réalisatrice et le vôtre.
Alors, mon point de vue, il n'a pas s'exprimé quand je fais le film, parce que moi, quand je fais un film en tant qu'actrice, je suis totalement au service de la personne qui m'a choisie. C'est certain, je vais pas faire passer mes idées avant les siennes. Après, quand on se retrouve sur des plateaux, là, je dis ce que je pense, et c'est vrai qu'Eva et moi, on n'a pas... on n'a pas le même engagement dans le féminisme. Voilà, c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir des divergences. Mais en tout cas, sur son film, je ne suis là que pour servir ce qu'elle veut dire et ce qu'elle veut raconter.
Et force est de constater que ce film, il sort quand même dans un contexte très particulier, que vous connaissez, qui est celui de l'affaire Weinstein, du mouvement MeToo. Encore aujourd'hui, il y a une tribune de 250 personnalités qui paraît pour en finir avec les violences sexistes. Ces événements qu'ont provoqué, ces répercussions aussi qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui, de quel œil est-ce que vous avez regardé, vous? Parce qu'on vous a pas beaucoup entendu sur ce sujet. Je vous pose la question.
Est-ce que vous voulez vraiment m'entendre sur ce sujet?
Ah ben moi oui, toujours.
Non, mais d'abord, ça n'a pas grand-chose à voir avec le film. Je dirais, Eva Husson n'a pas fait un film sur les femmes avec des femmes pour en prolongement de ces événements.
Mais je trouve ça toujours difficile de détacher un film du contexte, si vous voulez, dans lequel il sort.
Bah oui, mais c'est dommage. Ouais. Parce que le film, il n'a pas à être attaché à ce contexte. Le film n'est en aucun cas lié à tout ça. Après, moi... Je fais un peu tâche dans le discours ambiant, parce que moi je trouve que tous ces mouvements sont extrêmement disproportionnés et ne correspondent pas à des choses que j'ai moi-même vécues, donc je me sens pas totalement intègre quand on me demande de signer des pétitions ou de participer à des colloques, ou voilà, je décline toujours parce que je trouve que tout cela est très disproportionné. Et que on est un peu tombé dans un excès, une furie qui me semble en fait faire tort à la cause plutôt que la servir.
Et qui vous inquiète ?
Non, ça m'inquiète pas, mais c'est toujours et puis ça va passer surtout. Hein, c'est
pour le meilleur ou pour le pire, hein, ça va passer.
Pour le meilleur ou pour le pire, mais non, ça peut pas passer pour le pire, puisque la prise de conscience, elle a eu lieu. Maintenant, il faut qu'il y ait des actes pour justement que les choses évoluent. Et en particulier en ce qui me concerne, pour l'égalité des salaires, oui, ça. Mais par exemple, je suis pas du tout quelqu'un qui est pour la parité des hommes et des femmes dans le cinéma. Je m'en fous complètement. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui ont des choses à dire, des films à faire, qu'ils les fassent. S'il y a 80% d'hommes, tant mieux. Et tant pis s'il y a que 20% de femmes. Si tout d'un coup, 80% de femmes vont avoir plus de choses à dire que...
Emmanuel Bercot, que c'est plus difficile pour une femme de faire un film.
C'est pas vrai.
Vraiment?
De mon point de vue, je ne peux pas vous dire que c'est vrai. Je vous mentirais si je vous disais que c'est vrai.
Ah, vous faites bien de me
le
dire, alors.
Mon genre n'a jamais été un obstacle, n'a jamais été une faiblesse, une fragilité. Je dirais même bien le contraire.
En tout cas, c'est un discours qui change, et ça fait du bien aussi de l'entendre. Celle qui n'a pas d'avis dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Ah bah ouais, et son actualité qui est lisse, qui est consensuelle, qui est si peu engagée, somme toute. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 19 novembre?
Что же мне делать? Или молчать, или говорить то, что я думаю?
Je dois ou me taire ou dire ce que je pense.
Ну я говорю то, что я думаю.
Bien, moi je dis ce que je pense.
Dissident en or, le 28 novembre prochain, on fêtera les 100 ans de la naissance de l'écrivain et dissident soviétique Alexandre Solzhenitsyn. Mais les célébrations de la mémoire du prix Nobel de littérature 1970 commencent dès aujourd'hui avec le colloque Solzhenitsyn, un écrivain en lutte avec son siècle, qui réunit à la Sorbonne et l'Institut de France Edgar Morin, Julia Kristeva ou Antoine Compagnon, notamment. Côté publication, Fayard fait paraître le journal inédit de l'écrivain, tandis que les éditions de Lerne lui consacrent l'un de ses prestigieux cahiers.
La spinache au la bouchon. Cigarette tout bello, si rakish pacaletto, si le toula, si le toua.
Pessac et l'histoire est dans le sac. La commune de Gironde accueille dès aujourd'hui la 29e édition de son Festival international du film d'histoire. Au programme La Drôle de Paix de 1918 à 1939, marqué par la guerre d'Espagne, l'accès au pouvoir de Hitler et plus globalement la montée des populismes en Europe. Comme en écho à l'actualité, une centaine de films y seront projetés, notamment La Favorite de Yorgos Lanthimos, Ma vie dans l'Allemagne de Hitler de Jérôme Prieur ou Les temps modernes de Chaplin.
I have the vanity of an artist. I want my work to be seen, but I don't necessarily have to be seen.
Hockney au sommet, le Britannique David Hockney est officiellement devenu le peintre vivant le plus cher au monde suite à la vente record de sa toile Portrait of an Artist Pool with Two Figures, adjugée pour 90,3 millions de dollars. Il remplace ainsi Jeff Koons et son Balloon Dog Orange, un prix qui s'explique notamment par le succès de l'artiste dans les musées, qui s'est vu consacrer près de 3 rétrospectives triomphales en 2 ans à Beaubourg, à la Tate Britain et au Met de New York.
Ama la tierra. La tierra húmeda de abajo, negra o gredosa, a la que desmonta de piedrecitas que agrupa, de mínimos bulbos en agras.
Cervantes joue la carte vitale, la plus prestigieuse récompense littéraire du monde hispanophone. Le prix Cervantes a été attribué à la poétesse uruguayenne Ida Vitale, réfugiée au Mexique après 1973. La femme de lettres sud-américaine intègre le cercle d'Octavio Paz et signe notamment dans la célèbre revue Vuelta. À 95 ans, Ida Vitale est aujourd'hui récompensée pour une trajectoire poétique, intellectuelle, de critique littéraire, de traduction de premier ordre. En France, on découvre son œuvre aux éditions du Seuil. Viva Ida! Et la réalisatrice, scénariste, comédienne Emmanuelle Berco, invitée de Boomerang ce matin pour Les Filles du Soleil d'Eva Husson, présentée à Cannes en mai dernier. Alors le film, il faut quand même le dire, a déchaîné des passions. Comment est-ce que vous
Tant
l'avez...
mieux
ouais. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ça, la projection à Cannes, vous qui n'en étiez pas à votre premier Cannes?
Non, j'en étais pas à mon premier Cannes. Et c'est vrai que celui-là, je l'ai vécu de façon particulière, parce que comme j'en étais pas à mon premier Cannes, j'étais surtout... heureuse et observatrice de ce que vivait Eva Husson, pour qui c'était vraiment le premier Cannes. Et comme je sais qu'il y a quelque chose quand même d'extrêmement fort dans ces moments-là, voilà, j'étais plutôt, je l'ai plutôt vécu à travers elle que, et c'est comme, de toute façon, moi j'ai pas de mauvais souvenirs à Cannes, mais celui-là en est aussi un très bon, puisque la projection, voilà, déjà on découvrait le film, Goldshifty et moi, donc c'était particulier de le découvrir dans ces circonstances. Et puis la réception, les 17 minutes de Standing Ovation, les larmes dans les yeux des gens, c'est toujours très fort de vivre ça en direct. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment l'occasion de vivre dans les salles ensuite. Donc,
parce que le film, et il faut le dire, Emmanuelle Berco fait ce pari fou de l'émotion à tout prix, ce qui est quelque chose qu'on...
Non, c'est pas de l'émotion à tout prix.
De l'émotion.
De l'émotion. Non, Eva Husson, qui connaît très bien son sujet, elle a eu envie de raconter cette histoire, pas comme un documentaire, sinon elle aurait fait un documentaire, mais comme une fiction, un film, une épopée, un film romanesque avec de belles images, de beaux visages, et c'est son point de vue sur cette histoire qui ne ternit en rien la véracité, la vérité de ce qu'elle raconte.
Et où on pleure aussi, il faut le dire.
Et où on pleure, mais ouais. moi, heureusement qu'on pleure, dites donc, parce que si on pleurait pas devant une histoire pareille. Et puis le cinéma, il est, enfin de mon point de vue, je n'aime rien tant que quand je ris, ou encore mieux quand je pleure au cinéma.
Ah, c'est intéressant. Quel genre de spectatrice est-ce que vous êtes, vous,
justement? Moi, je suis une spectatrice très 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 bon public. Déjà, je n'ai aucun snobisme, donc je vais tout voir et je peux tout apprécier. Je peux autant apprécier un film de pur divertissement qu'un film d'auteur très pointu. En fait, moi, j'aime pleurer beaucoup. J'aime rire beaucoup. J'aime aussi voir de belles images. J'aime voir de belles personnes. J'aime qu'on raconte des choses. Et j'aime surtout découvrir des univers et des choses qui sont loin de moi. Et ça c'était pour moi le grand cadeau qu'Eva m'a fait avec ce rôle. C'est que pour une fois, je pouvais incarner et raconter quelque chose qui n'est en rien, qui n'appartient en rien à ma vie de tous les jours. Et ça, c'est merveilleux d'aller si loin grâce à un film.
Vous dites j'aime pleurer beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait pleurer à coup sûr au cinéma, vous?
À coup sûr, ouais. Bah, par exemple, un enfant qui souffre. Là, je vais pleurer de la première image à la dernière. Mais oui, tous les choses profondément choquantes me font pleurer. Et les choses profondément belles, la beauté est quelque chose qui m'émeut énormément.
Votre goût et votre passion du cinéma, Emmanuelle Berco, ça vient d'où, en fin de compte? Je sais que vous n'étiez pas destinée à devenir réalisatrice au départ. Je pense que vous essayez d'être comédienne.
Non, quand vous dites destinée, j'ai pas eu de vocation, mais j'ai toujours adoré le cinéma. J'étais beaucoup au cinéma enfant. J'habitais au-dessus d'un cinéma. j'ai passé beaucoup de temps au cinéma. Le cinéma a toujours été une passion de spectatrice. Maintenant, c'est venu tard parce que j'imaginais pas que c'était, on pouvait passer de l'autre côté de l'écran. Ça me paraissait inaccessible. Et quand j'ai compris que ça pouvait peut-être l'être, voilà, j'ai eu envie d'en faire. Mais c'est vrai que c'était pas une vocation. C'est la salle de cinéma, c'est l'endroit où je préfère être.
Ah, c'est vrai?
Oui. Je sais que vous adorez la littérature.
Ouais.
Eh ben moi, c'est le cinéma, être dans une salle, dans le noir. Je regarde pas les films en DVD. Je continue à aller au cinéma et je ne connais pas d'expérience aussi forte.
Vous êtes une ancienne élève de la FEMIS,
oui.
Cette grande école française de cinéma. Ces années d'émulation, de création, de passion, d'innocence aussi, elles représentent quoi dans votre parcours, dans votre vie?
Mais ça représente tout. Parce que ma vie, elle a changé du jour où j'ai mis un pied dans cette école. J'étais rien du tout, quoi. Avant de...
Vous voulez dire que la jeune étudiante en cinéma, elle est toujours là, aujourd'hui?
Ah oui. Oui, d'abord, parce que je trouve que c'est un métier où on a toujours l'impression d'être pas arrivé quelque part, et on est tout le temps en recherche et en apprentissage. D'ailleurs, les critiques nous le font bien comprendre. Donc on a sans arrêt beaucoup encore à apprendre, beaucoup à s'améliorer, et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier. Moi, chaque fois que je commence un film ou que j'écris un scénario, j'ai l'impression de ne rien savoir et d'être une débutante et d'avoir tout à apprendre en faisant. Donc oui, et puis de toute façon, faire du cinéma, il faut quand même se dire que c'est un métier qui est extrêmement difficile, mais c'est fou de se dire que moi je me lève le matin, qu'est-ce qui m'occupe? J'ai un film à faire. C'est merveilleux, il y a forcément de l'émulation dans tout ça. Et puis c'est du travail, pas l'écriture de scénario, mais faire un film, c'est un travail collectif. Et c'est une expérience quand même qui reste merveilleuse pour moi d'entraîner comme ça 40, 50 personnes dans une idée qui a germé dans ma tête et où tout le monde va tout d'un coup se mettre au service de cette idée pour le porter ensuite sur un écran et le proposer aux gens. Alors on espère toujours que les gens vont venir en masse, mais en tout cas, voilà, si le film atteint quelques personnes, c'est déjà merveilleux.
On va reparler de justice, de cinéma, mais aussi de féminin, tiens, quand même. Après Nina Simone, qui reprenait Dylan en 1971, Just Like a Woman. Vous êtes sur France Inter avec Emmanuel Berco. Vous écoutez Boomerang, quel beau lundi matin.
She takes just like a woman. Yes, she does. And she makes love just like a woman. And she aches just like a woman. But she breaks like a little girl. Nobody feels tonight as I stand inside the rain. Everybody knows the baby's got new clothes lately. I see her ribbons and her bows. And the problems from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. And she makes love just like a woman. She aches just like a woman. And she breaks like a little girl. It was raining from the first.
And everybody knows I was dying of thirst. So I came here a long time's curse. And what's worse is his pain. Yeah, I can't stay in here.
Boomerang sur France Inter.
C'est assez intéressant, voilà, cette nervosité et cette force qui ont fait à la fois quelqu'un de très fragile, mais néanmoins capable de vous insulter lorsqu'elle était au volant de sa voiture ou que vous passez devant elle par inadvertance dans la file d'attente d'un supermarché. On est toujours à deux doigts de l'esclandre avec elle, avec son regard mobile, curieux, passionné, son visage tout en clin d'œil, mou dubitatif comme à l'instant, ou éclat de rire sonore tout en noir ce matin. La cinéaste et comédienne Emmanuelle Berco, invitée de Boomerang. C'est la comédienne que je reçois ce matin pour son rôle dans Les Filles du Soleil d'Eva Husson en salle après-demain. Un film dans lequel votre personnage photoreporter, on le disait, rejoint un bataillon de femmes qui se bat contre les islamistes. Et c'est intéressant parce que votre rôle, c'est celui d'une étrangère, d'une observatrice. Lorsque les femmes manient les armes, votre personnage, elle manie son appareil photo. Se pourrait-il que l'appareil photo, et par extension la caméra, soit une arme, Emmanuelle Berco?
Ah, elle en est une, certainement, en tout cas, sinon... en tout cas, dans les mains de ces reporters de guerre qui ont, elles aussi, enfin, quand, les femmes et hommes, une force et un courage inouï. Parce qu'aujourd'hui, les reporters de guerre sont plus seulement des témoins, ce sont des cibles, tout autant que les combattants. Donc, quand ils vont sur le terrain, ils savent qu'ils vont vraiment, possiblement à la mort. Et leur appareil photo ou leur plume, c'est quoi? C'est le seul moyen qu'on a, en fait, de savoir ce qui se passe.
Et de lutter aussi, peut-être, contre l'aveuglement, contre l'oubli, aussi.
Ah, bah oui, c'est eux qui témoignent, c'est eux qui dénoncent. Alors, mon personnage dans le film est un peu désillusionné par rapport à l'impact que tout ça a aujourd'hui dans le flot de...
Oui.
De l'information, etc., et que les gens, ils ont besoin de positif, mais je pense qu'il y a quand même toute une partie des sociétés, des populations qui restent très, très vigilants et soucieux de ce qui se passe dans le reste du monde. Et l'information écrite, ou moi j'adore la photo, donc je trouve que les photos de guerre, elles parlent peut-être plus que certains articles. Elle est vitale pour qu'on continue à s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Et puis surtout, on nous raconte aussi beaucoup n'importe quoi. Donc ceux qui reviennent du terrain sont les seuls qui détiennent les secrets.
Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, Emmanuelle Berco, dans la vie, tout le temps, aujourd'hui?
Alors moi, j'ai vraiment peur de pas grand-chose. J'ai peur de la mort... C'est à peu près la seule chose dont j'ai peur, mais enfin, c'est le seul truc dont je suis sûre que je vais commettre aussi.
Vos réactions.
Souvent, on a peur de choses qui ne vont jamais nous arriver.
Je me disais parfois vos réactions, votre façon instinctive de réagir.
Oui.
Ça peut vous effrayer, ça?
Ah non, non, ça peut me gêner. non, mais par exemple, je suis quelqu'un de très émotif. C'est toujours, j'ai pas peur, mais je suis toujours un peu gênée de ce qui peut arriver, quoi. Parce qu'effectivement, j'ai pas beaucoup de contrôle sur moi-même, ni de filtre et tout ça. Mais la vraie peur, franchement, il y a rien qui me fait peur dans la vie. Ce qui me fait peur, c'est qu'elle s'arrête.
Le cinéma, pour vous, c'est une histoire d'instinct, justement, d'émotion, puisque vous dites « je suis très émotive ».
Ça l'est pour moi, parce que moi, je n'ai pas d'autres armes, mais il y a des gens qui font du cinéma de façon très, très, très cérébrale, très, très, très théorique, très, très lyrique, très, très, très belle, quoi, très, très forte intellectuellement. Moi, ce n'est pas ma façon de faire, parce que je n'ai pas ces outils-là. Mais donc, oui, le cinéma, c'est quelque chose qui n'est que instinct. Et émotion, un petit peu de maîtrise quand même.
J'ai l'impression que chez vous, ça...
On peut pas partir dans tous les sens. Hein?
J'ai l'impression que chez vous, ça a à voir avec la jeunesse aussi.
Ah oui, mais de toute façon, oui, bien sûr. Tout a à voir avec la jeunesse pour moi.
Vous nous avez fait un cadeau ce matin, vous nous avez apporté un texte que vous allez lire, un texte d'un livre magnifique d'Edouard Levé qui s'appelle Autoportrait, où il est question de jeunesse.
Je le lis?
Ouais.
Vous situez pas?
Non.
Je lis comme ça.
C'est ça qui est beau.
Ok.
Juste des mots.
Bah, j'ai choisi le début du livre, en fait.
C'est bien, ça va donner envie aux auditeurs.
Ah ouais, il faut absolument lire la suite. Il y a 123 pages. Adolescent, je croyais que la vie mode d'emploi m'aiderait à vivre. Et suicide mode d'emploi, à mourir. J'ai passé 3 ans et 3 mois à l'étranger. Je préfère regarder sur ma gauche. Un de mes amis jouit dans la trahison. La fin d'un voyage me laisse le même goût triste que la fin d'un roman. J'oublie ce qui me déplaît. J'ai peut-être parlé sans le savoir avec quelqu'un qui a tué quelqu'un. Je vais regarder dans les impasses. Ce qu'il y a au bout de la vie ne me fait pas peur. Je n'écoute pas vraiment ce qu'on me dit. Je m'étonne qu'on me donne un surnom alors qu'on me connaît à peine. Je suis lent à comprendre que quelqu'un se comporte mal avec moi, tant je suis surpris que cela m'arrive. Le mal est en quelque sorte irréel. J'archive. J'ai parlé à Salvador Dali à l'âge de 2 ans. La compétition ne me stimule pas. Décrire précisément ma vie me prendrait plus de temps que la vivre. Je me demande si, en vieillissant, je deviendrai réactionnaire. Assis, jambes nues sur du sky, ma peau ne glisse pas, elle crisse. J'ai trompé 2 femmes. Je leur ai dit, l'une y fut indifférente, l'autre pas. Je plaisante avec la mort. Je ne m'aime pas. Je ne me déteste pas. Je n'oublie pas d'oublier. Je ne crois pas que Satan existe. Mon casier judiciaire est vierge. J'aimerais que les saisons durent 1 semaine. Je préfère m'ennuyer seul qu'à 2. J'arpente les lieux vides et je déjeune dans des restaurants désolés. En matière de nourriture, je préfère le salé au sucré, le cru au cuit, le dur au mou, le froid au chaud, le parfumé à l'inodore. Je ne peux pas écrire tranquillement s'il n'y a rien à manger dans mon frigidaire. Je me passe facilement d'alcool et de tabac. Je vais terminer là-dessus, sachant que la dernière phrase, je ne peux pas la prendre à mon compte.
Merci infiniment Emmanuel Berco de nous permettre, au travers de cet autoportrait d'Edouard Levé, de savoir un peu plus de vous. Quelle joie de vous entendre ce matin. Je rappelle que Les Filles du Soleil, le nouveau film d'Eva Husson avec Golshift Farahani, Zubeyde Bulut notamment, sortira en salle après-demain. Tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Sage ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux importants la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, les multitudes vilent. Sous le fouet du plaisir, se bourreau sans merci. Va cueillir des remords dans les fêtes serviles. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Loin d'eux.